Non, mais tu peux parler, mais pas sur la conférence.
Sur le temps.
C'est bon ? Alors, nous démarrons. La plupart des œuvres que nous allons vous présenter étaient principalement dues à l'acte de dévotion, à un moment où l'Église catholique souhaitait donner au statut marial une importance considérable. Mais se posait la question des images. Et là, on vous laissera libre de choisir ce que vous souhaitez, mais il faut vous faire part d'une correspondance qui a eu entre Grégoire le Grand et Sérénus. Grégoire le Grand, évêque de Rome, Sérénus, évêque de Marseille. Sérénus s'opposait aux images trop nombreuses et Grégoire le Grand lui a écrit ceci. Une chose est d'adorer une peinture, autre chose est d'apprendre à travers l'histoire que nous raconte la peinture ce qui est à adorer. Donc on vous laissera libre d'adorer soit les peintures, soit l'histoire qui nous est racontée. On ne vous imposera rien. Le souhait de vous parler de la conférence de ce soir et de l'Annonciation est né de la lecture d'un livre, L'Annonciation italienne, histoire de perspective de Daniel Arras, et plus particulièrement de la phrase suivante qui a attiré mon attention et m'a permis d'y travailler pendant de nombreuses années, tellement le sujet paraît passionnant. Voilà la phrase de Daniel Arras. Une intuition. Du Trecento au Cinquecento, il avait existé dans la peinture italienne une affinité particulière entre annonciation et perspective. Cette affinité est paradoxale car elle se fonde non sur l'accord mais sur une tension entre le thème représenté et l'instrument de sa représentation. Donc une tension entre l'annonciation et l'outil de sa représentation, la perspective. Perspective linéaire, centrée, dont on parlera tout au long de la conférence. Pour compléter cette introduction, il me semble nécessaire de signaler que le texte de l'Annonciation n'a été écrit que par Luc, l'évangéliste. Et ce texte est une véritable et pure narrative. On a très peu de renseignements. On ne sait pas ce que fait Marie au moment de l'Annonciation. On ne sait pas par où entre l'ange, encore que les anges peuvent entrer par où ils veulent, mais on a très peu de précision. C'est une épure narrative, dit-on, et cette épure narrative permet au peintre d'utiliser une liberté que néanmoins l'Église essaye de contrôler. En premier lieu, on va faire la lecture du texte pour poser les bases essentielles de l'Annonciation. Le texte va être lu par Françoise.
Il entra et dit. Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. » Et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait stérile, car rien ne sera impossible à Dieu qui est tout verbe. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ton verbe. » Cet échange verbal est pour les exégètes que sont certains peintres une épure narrative, et l'événement de l'Annonciation, c'est-à-dire l'incarnation, ne se réalise qu'au moment où Marie accepte. Mais comment donc représenter cette incarnation, objet de l'Annonciation ?
Ici, nous allons, Françoise va nous lire un deuxième texte qui est une série d'oxymores qu'utilisait Bernardin de Sienne dans ses prêches. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents, Bernardin de Sienne, prêcheur à Sienne, nous en avions parlé au moment où nous avons parlé du bon et du mauvais gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti. Bernardin de Sienne prêchait devant le palais communal au sein duquel étaient peintes ses fresques. Voici le texte, suivez bien cette série d'oxymores qui est très surprenante.
L'éternité vient dans le temps, l'immense dans la mesure, le créateur dans la créature. Dieu vient dans l'homme, la vie dans la mort, l'incorruptible dans le corruptible, l'infigurable dans la figure, l'indicible dans le discours, l'inexplicable dans la parole, l'invisible dans le visible, l'inaudible dans le son, l'impalpable dans le tangible, le seigneur dans l'esclavage, la source dans la soif, le contenant dans le contenu, l'artisan dans son œuvre, la longueur dans la brièveté, la largeur dans l'étroitesse, la hauteur dans la bassesse, la noblesse dans l'ignominie, la gloire dans la confusion.
Excusez-moi, je vous interromps, j'entends un bruit parasite.
Oui, il y a... C'est quoi cette espèce de...
Ça me déconcentre.
Une radio, c'est quoi? Tu entends
une radio?
Je dirais qu'il y a une radio qui fonctionne. Je l'entends par là.
Merci. En fait, c'est une conférence qui ancienne qui s'est lancée sur le magnétophone qui faut
faire concurrence.
Merci.
Donc cette série d'oxymores. Alors, on a d'abord ce moment où l'Église souhaite que le statut marial ait plus d'importance, plus de place auprès des fidèles. Et on se doit de représenter l'objet de l'Annonciation qui est l'incarnation. Mais comment le faire? Avant la naissance de la perspective centrée, voilà le type d'Annonciation que nous avions. Vous avez là les deux personnages de l'Annonciation, l'ange et Marie. Le bouton, oui, c'est celui-là. Donc l'ange est ici et Marie est ici. L'ange à gauche, Marie à droite, toujours dans la même configuration. Et entre l'ange et Marie, nous avons des scènes de la vie du Christ. Ici, une crucifixion, une résurrection, pour avoir une nativité. Voilà comment on représentait l'objet de l'Annonciation qui est l'incarnation. On n'avait pas d'autre moyen de le faire. Et antérieurement, voilà une autre œuvre telle que était représentée l'Annonciation, une œuvre de type byzantin. Voilà, on a là quelque chose qui est fort simple, on peut apprécier, en tout cas c'est mon cas. On a un mouvement, regardez les personnages, on dit que Marie est confuse lorsqu'elle reçoit l'Annonciation, son geste le trouve très beau, il y a une très très belle gestuelle, mais on va passer un cap avec la naissance de la perspective. Voici donc posé le contexte à partir duquel John Spencer, un historien d'art, va nous indiquer que les annonciations nouvelles à Florence entre 1415 et 1425 vont faire naître ce qu'il appelle une nouvelle iconographie spatiale. On peut dire que si on donne raison à John Spencer, une nouvelle iconographie spatiale n'est pas souvent proposée à notre regard. C'est très peu fréquent dans les œuvres picturales. La dernière était probablement le moment de l'abstraction, celle que nous avons connue. Mais lorsqu'il évoque 1415 à 1425 à Florence, John Spencer commet une petite erreur. Ce n'est pas l'historien que je suis pas historien, mais ce sont d'autres historiens. Et pour comprendre cette erreur, il faut revenir à un autre historien de l'art qui est Erving Panofsky, qui lui dit que c'est en 1344 à Sienne qu'a eu lieu la première annonciation, la première œuvre en perspective, qui est une annonciation peinte par Ambrogio Lorenzetti. Voilà l'œuvre que l'on va vous présenter. Erving Panofsky a fait une petite erreur aussi. C'est la première annonciation en perspective, mais ce n'est pas la première œuvre en perspective. La première œuvre en perspective est une Naissance de Marie, la naissance de Marie peinte par Pietro Lorenzetti, le frère aîné d'Ambrogio. Nous n'allons pas la voir, ce n'est pas l'objet de la soirée. Donc, voici l'œuvre d'Ambrogio Lorenzetti. Comment fait-il advenir cette incarnation objet de l'Annonciation ? Si on regarde l'œuvre, on a les deux personnages de part et d'autre d'une colonne centrale, et la colonne centrale a deux particularités. Le pied de la colonne se trouve dans le premier espace, ici. Se trouve dans le premier espace parce que le manteau de Marie dépasse derrière la colonne. Donc on voit bien que le pied de la colonne est dans le premier espace. Et lorsqu'on poursuit, on suit dans la hauteur la colonne, celle-ci se développe dans le fond, dans l'arrière-plan. Voici comment se développe la colonne. Elle remonte dans le fond. Elle s'inscrit dans le fond qui est un fond d'or ici. Et le fond d'or est toujours le symbole de l'espace divin. Donc ce que l'on peut considérer, c'est que l'incarnation de l'Annonciation vient ici de l'espace terrestre, le pied de la colonne, à l'espace divin, le haut de la colonne, s'inscrit dans cette démarche de l'espace divin, de l'espace terrestre humain à l'espace divin. Je suis désolé, hein, je parle avec les mains parce que je suis d'origine italienne, donc. Donc voilà la manière dont Lorenzetti nous propose de signifier l'objet de l'Annonciation qui est l'incarnation. Un élément supplémentaire de cette œuvre, Marie qui est de profil a une boucle d'oreille. Et la boucle d'oreille a un sens. Ambrogio Lorenzetti actualise son œuvre, il actualise dans son temps. Pour quelle raison ? En 1244, au quatrième concile de Trente, l'Église a imposé ce signe distinctif à deux catégories de personnes, dont les femmes de la communauté juive. Donc Ambrogio Lorenzetti nous signifie aux fidèles que Marie, son origine, est bien d'origine juive. Donc voilà cette œuvre telle qu'Ambrogio Lorenzetti nous la présente. Regardez le pavement au sol, on a vraiment une perspective, alors qui n'est pas précise, comme on le verra par la suite, mais il y a un début de tentative de figurer ce que l'on appellera plus tard l'infini par la notion de la perspective. Donc voilà l'œuvre d'Ambrogio Lorenzetti, la première annonciation en perspective. On a dit que John Pincer nous dit qu'il faut venir à Florence entre 1415 et 1425. Pourquoi nous dit-il ça ? Un autre historien, Miarmes, un historien anglais, a écrit un essai « Peindre à Florence et à Sienne après la peste noire ». Et oui, parce qu'on a là 1344, l'œuvre d'Ambrogio Lorenzetti, et on a 1348, la peste noire. Et la peste noire voit décéder les deux frères Lorenzetti. Et après la peste noire, les commanditaires, et notamment l'Église, souhaitent que l'utilisation des méthodes modernes, dont la perspective est l'élément central, la modernité vient aussi de la perspective, ne soit plus utilisée. Et on aura, de 1350 à peu près, aux années 1410, on n'aura plus d'utilisation de la perspective, et surtout pas dans l'Annonciation. Et c'est pour ça qu'on va quitter Sienne pour aller vers Florence, là en 1415 et entre 1415 et 1425, la perspective va prendre toute son ampleur. Son ampleur dans cette ville, pourquoi ? Parce que dans cette ville, on a quatre personnages. Un architecte, Brunelleschi, dont Claude nous avait parlé lors d'une conférence. Un sculpteur, Donatello. On a un peintre, Masaccio. Et un théoricien, Alberti, qui a écrit de la perspective, qui a écrit de la peinture. Enfin, c'est un théoricien. Ces quatre personnages vont, à travers les œuvres et les écrits, vont faire naître quelque chose, cette nouvelle iconographie spatiale dont nous parlait John Pincer. Et là, vraiment, on est à Florence, et on y est pour un moment. Pour avoir une idée de la maîtrise possédée par Masaccio, nous n'avons pas de sa part une œuvre qui représente l'Annonciation. On ne l'a pas retrouvée, elle a disparu, semble-t-il. Mais on a une autre œuvre qu'on souhaitait vous montrer, parce que la notion de perspective, là, occupe un espace fantastique de qualité. Voici l'œuvre. Cette œuvre est Vasari, l'historien de l'art, le premier historien de l'art, Vasari en dit la chose suivante. À Santa Maria Novella, Masaccio fit à fresque au-dessus de l'autel de Sant'Ignazio la Trinité entre la Vierge et Saint Jean l'Évangéliste qui contemple le Christ crucifié. On remarque dans ce tableau une voûte ornée de rosaces mise en perspective avec un art incroyable. C'est d'autant plus vrai que cette fresque, il faut penser qu'on la voit ce que l'on appelle de sotto in su, du dessous vers le haut. On ne la voit pas face à nous, elle est peinte en hauteur par rapport à nous, humains. Donc il faut l'imaginer en plus de la voir dans ses dimensions, de sotto in su, du dessous vers le haut. Voilà ce que dit Vasari de cette maîtrise de la perspective de Masaccio. Et voilà ce qu'il écrivait sur l'Annonciation que lui a vue, mais que nous ne verrons probablement jamais. Voilà ce qu'il écrit. Il y a de Masaccio un autre tableau en détrempe représentant l'Annonciation de la Vierge et un magnifique édifice en perspective orné de colonnes dont la fuite est si bien ménagée que peu à peu on la perd de vue. Donc voilà, on a quitté Sienne, Lorenzetti avec sa perspective, ses hésitations, pour arriver à Florence, où là on a une maîtrise, notamment par Masaccio, mais Brunelleschi aussi.
Et à Florence,
pardon,
on peut constater que la perspective est utilisée dans le cadre de l'Annonciation fréquemment, à la fois par des peintres, des exégètes des textes religieux, mais aussi par des peintres non religieux. Notamment les œuvres de Domenico Veneziano et de Fra Angelico semblent confirmer cette nouvelle iconographie spatiale. En premier lieu par la sobriété des couleurs et des formes, mais c'est une véritable épure du thème. Dans la première œuvre, la perspective nous invite, voire nous intime, à suivre le parcours vers le fond du jardin, vers la porte close, dont le sens est très probablement la porte du jardin clos, représentant Marie dans le Cantique des Cantiques. Marie dans le Cantique des Cantiques est dit « Tu es un jardin clos, ma sœur, un jardin clos, une source scellée. » Mais cette porte, c'est aussi le texte suivant de l'Évangile de Jean. « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc, si on ajoute la possibilité que la porte du jardin clos représente le jardin de Marie et que la porte représente aussi Jésus, on peut aisément comprendre ce qu'écrit Ambroise de Milan, condensant la double figure du Christ et de Marie. La porte fait donc iconographiquement allusion au mystère invisible de l'incarnation. Fra Angelico nous présente un autre mode de représentation en situant historiquement l'avènement de l'Annonciation. Le regard va suivre la perspective le long des arcades, perspective qui nous amène vers la scène de l'arrière-plan où l'on voit Adam et Ève chassés du paradis vers un endroit désertique, en opposition au jardin de Marie qui, lui, est luxuriant. Cette représentation de la chute d'Adam et d'Ève à l'arrière-plan et de l'Annonciation au premier plan nous amène de l'ère de la loi à l'ère de la grâce. Et on a une autre œuvre de Fra Angelico qui était réservée à la vue des frères dominicains dans leur couvent et leur proposer l'écrit suivant: « En passant devant la Vierge toute pure, veille à ne pas oublier de dire un ave. »
Ici, nous allons voir une œuvre de Filippo Lippi. Fra Filippo Lippi, il ne faut pas l'oublier, il a été religieux lui-même. C'est une œuvre qui, ma foi, est d'une grande sobriété. Ici, les deux personnages, le lys entre les deux, le lys symbole de la pureté de Marie. Mais on a quelque chose d'étonnant, c'est regarder la colombe, elle n'est pas au-dessus de Marie comme habituellement. La colombe, généralement, soit il y a Dieu, la main de Dieu, et la colombe entre la main de Dieu et Marie, au-dessus de Marie. « Je te couvrirai de mon ombre », c'est l'Esprit Saint que représente la colombe. La colombe n'est pas là, elle est, regardez, elle est devant le ventre de Marie. Alors il y a quelque chose d'assez surprenant, mais en même temps, qui nous dit des choses importantes du travail de Filippo Lippi. Regardez ces cercles, avant que la colombe ne s'arrête devant. C'est comme si c'est l'invention du mouvement en peinture. Ces cercles, la colombe arrive du haut, envoyée par Dieu, elle va s'arrêter, mais pour s'arrêter, il y a un mouvement avant, ces cercles dessinés. Fra Filippo Lippi, c'est quelque chose de nouveau, là, on n'a pas avant. Mais la colombe, c'est bien plus important, la représentation de l'Annonciation. Que fait Filippo Lippi? Pourquoi la place-t-il devant le ventre de Marie? Alors, la colombe émet toujours des rayons d'or. C'est l'Esprit Saint qui vient se poser sur Marie. Donc, les rayons d'or, effectivement, sont envoyés par l'Esprit Saint, là. Mais ils sont envoyés vers le ventre de Marie, et notamment, regardez ici, on a une ouverture. Et de cette ouverture sortent des rayons d'or. Ils sortent dans ce sens. On a des rayons d'or dans ce sens, et on a des rayons d'or qui sortent dans ce sens. On peut penser que Filippo Lippi représente l'incarnation, l'objet de l'Annonciation à l'Incarnation par ce phénomène-là, cette particularité-là, cette singularité qui lui appartient, dont on disait tout à l'heure, les purs narratifs du texte permettaient au peintre d'agir un peu. Pourquoi peut-il faire ça? Parce que les œuvres à l'époque ne nous étaient pas présentées comme aujourd'hui dans les musées, face à nous, on voyait tout, elles nous étaient présentées dans une pénombre. Et ces détails-là n'étaient pas perçus de la même manière qu'on peut les percevoir aujourd'hui. Donc voilà une œuvre de Filippo Lippi qui est fort singulière et fort intéressante pour parler de la représentation, l'objet de l'Annonciation qui est l'incarnation. Une autre œuvre ici de Piero della Francesca. Piero della Francesca est l'élève de Domenico Veneziano dont on a vu les purs pictural qui correspondait à l'épure narrative du texte, la première œuvre qu'on a vue en perspective, ce regard qui va vers le fond du jardin, vers la porte, etc. etc. Il est l'élève de Domenico Veneziano, mais c'est aussi un mathématicien euclidien, c'est-à-dire il a étudié la mathématique, la géométrie d'Euclide, et il a écrit un livre, Peindre en perspective, et ce livre il a destiné aux peintres qu'on appelait Sainte Salé et Terra. Les peintres, il n'est pas aussi érudit que pouvaient l'être Fra Angelico, Filippo Lippi, Domenico Veneziano, qui ne possédaient pas, qui n'étaient pas aussi exégètes, aussi érudits que les peintres dont on a vu quelques œuvres. Et cette œuvre de Piero della Francesca, elle a une particularité. Elle se situe au-dessus d'un ensemble. Cette œuvre est un ensemble, tout en haut. Et lorsqu'on la voit, on a le sentiment que la plaque de marbre, ou du moins ce qui semble être la plaque de marbre au fond, se dirige vers nous. Il y a un phénomène visuel qui est très surprenant. Et là, je vais me permettre de faire une digression, un pas de côté, en parlant d'un autre livre que celui de Daniel Arras. C'est un livre de Didier Huberman, historien de l'art aussi, qui a écrit un livre sur toute l'œuvre de Fra Angelico, qui s'appelle « Dissemblance et figuration ». Pourquoi cette plaque de marbre? Il va nous en parler. Ce travail de Didier Huberman, on peut le résumer en deux phrases, deux postulats fondamentaux. Il fallait renoncer à ce postulat selon lequel la peinture figurative imite les choses en imitant leur aspect visible. Il faut oublier ça pour Didier Huberman en travaillant sur l'œuvre de Fra Angelico. Il faut oublier ce lien entre les deux. Deuxième phrase, pour qu'une visibilité puisse prendre toute sa valeur, non pas dans ce qu'elle montre, mais dans l'attente d'une visibilité qu'elle ne montre pas encore. Voilà ce que nous propose Didier Huberman, et on va pouvoir parler de cette œuvre à partir d'une œuvre de Fra Angelico. La voici. Cette œuvre, elle s'appelle la Madone des Ombres. Elle se situe dans le couloir de San Marco, au rez-de-chaussée, lorsqu'on rentre, avant d'aller à l'étage où on voit la fameuse annonciation qu'on a vue devant laquelle passaient les religieux et devaient prier Marie. Elle se situe donc au rez-de-chaussée. Et lorsqu'on parle de cette œuvre, généralement, on parle que de la partie du haut, la Madone des Ombres, une conversation sainte, une sainte conversation. Et on oublie de parler des quatre pans colorés qui se situent, alors que c'est l'ensemble de la peinture qui les inclut. Voilà ce qu'en dit Didier Huberman. Pour ces quatre pans de couleurs, il nous dit, qui représentent, on pourrait penser du marbre, comme l'œuvre de Piero della Francesca, il nous dit, en premier lieu, il semble nécessaire d'écarter l'idée d'une représentation ostentatoire de la richesse en ce lieu destiné à l'humilité, le couvent San Marco. Richesse que représenterait le marbre. Donc, Didier Huberman nous propose d'oublier ça, d'oublier que c'est du marbre. Ensuite, il nous faut accepter l'idée que toutes les images peintes n'ont pas pour finalité la ressemblance au sujet que nous propose le peintre, et que ces quatre pans multicolores représentent non pas une image, mais une figure qui va permettre une pensée contemplative. C'est ainsi qu'en parlait Thomas d'Aquin, lorsqu'il évoque la force des images. L'hypothèse soulevée ici est donc que ces zones multicolores fonctionnent moins comme un signe iconique que comme opérateur d'une conversion du regard. Elles introduisent le mystère, et voilà, on y arrive, elles introduisent l'infigurable dans la figure, l'immensité dans la mesure, etc. etc. La série d'oxymores de Bernardin de Sienne que connaissait très bien Piero della Francesca et Fra Angelico, bien sûr. On doit faire appel, ce que nous propose Jordi Huberman, à Giovanni San Gimignano, autre prédicateur, mais lui à Florence. Bernardin était plutôt du côté de Sienne. San Gimignano, l'un des prédicateurs les plus importants du XIVe siècle, à Florence, et qui a composé une monumentale somme figurative intitulée « Somme des exemples et des similitudes des choses ». Qui est un recueil raisonné de figures empruntées au monde visible, propre à induire les vérités les plus abstraites. Et voici ce qu'il écrit au livre 2. Ce livre 2 est consacré aux pierres. Toutes les pierres figurent ensemble l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est solide comme une pierre. Les pierres sont une transmutation du limon originel. Elles sont un dépassement de la boue. Peut-on penser que Piero della Francesca nous propose quelque chose de cet ordre-là? Une image qui va nous permettre une conversion du regard. C'est à chacun d'y répondre. En tout cas, ce que dit Didier Huberman m'a beaucoup intéressé et c'est pour ça que je voulais vous l'adresser. On a vu quelques œuvres là dont on peut dire que la perspective est une perspective qu'on peut qualifier de théologisée. Et on va voir d'autres perspectives dans la conversation avec les œuvres. Et là, on va passer peut-être à une perspective qu'on va appeler une perspective merveilleuse, voire miraculeuse pour certaines d'entre elles. Je t'en prie.
La première, c'est une annonciation de Carlo Crivelli, qui est présentée par lui comme un artifice, car cette œuvre raconte une autre histoire que l'annonciation. Et elle est représentée, cette autre histoire, par le personnage installé sur le pont, et lisant la lettre reçue du pape Sixte IV qui annonce la Libertas Ecclesiastica de la ville. La ville, c'est Ascoli Piceno. Les deux cages, l'une près du lecteur et l'autre près de Marie, semblent vouloir faire le lien entre l'annonciation et l'annonce de la liberté de la ville, chacune de ces nouvelles ayant été apportée par des colombes. La présence de saint Émidius, le protecteur de la ville aux côtés de l'ange, semble apporter la réponse qui est habituellement donnée par Marie avec sa main droite. Carlo Crivelli marque sa position critique à l'égard de l'outil privilégié de la modernité en peinture, à savoir la perspective, en apportant des personnages et des objets porteurs de la grandiose invraisemblance du sacré, en lieu et place d'une perspective qui aurait à montrer l'invisible dans le visible. Au tout premier plan, il confirme son dispositif du merveilleux par la disposition sur le pavement de la rue au bord du tableau d'une pomme et d'une courge, dont la présence à cet endroit est parfaitement incongrue, la pomme représentant le péché d'Ève et la courge, la ville pure assiégée par le mal.
Une autre œuvre.
C'est l'œuvre de Benedetto Bonfigli, commandée par la Corporation des notaires de Pérouse. Et la présence entre les deux figures de l'histoire de Luc l'Évangéliste, on se rappelle qu'il est le seul à attester de l'Annonciation, qui semble prendre note des échanges entre l'ange et Marie, comme prendrait note un notaire pour établir un acte authentique. À ce sujet, il faut rappeler qu'au XVe siècle, les actes notariés sont établis au nom et sous l'invocation de Dieu, du Christ, de la Vierge et d'un nombre indéterminé de saints. Le serment passé devant notaire a valeur religieuse et le notaire est le témoin et le garant de cet engagement.
Autre œuvre.
En 1469, Cosme Tura décore les volets de l'orgue de la cathédrale de Florence. Et si la composition de l'œuvre repose sur le contraste entre le paysage naturel et l'architecture noble, le vocabulaire architectural est clairement à l'antique, avec des colonnes, des chapiteaux, des bas-reliefs. Cette composition met en évidence une construction perspective centrée, dont le point de vue rabaissé prend en compte la situation du spectateur. L'Annonciation était visible entre les deux panneaux distants de 3 mètres, était ouvert de part et d'autre de l'orgue. L'entre-deux est occupé par l'orgue, et dès lors que l'Annonciation était visible, on voyait en même temps la musique divine, écho et figure sonore de la salutation angélique, visible mais inaudible. Un autre événement vient de confirmer cette appréciation. Il est représenté par la colombe peinte près de l'oreille de Marie qui entend cette musique en se penchant vers elle. Lorsque les volets sont fermés, la scène de Saint-Georges terrassant le dragon apparaît en opposition à la musique divine, car dès lors ce sont les cris, les hennissements du cheval et les grognements du dragon que l'on entend. C'est le contraste entre le tumulte lorsque l'Annonciation est cachée à notre vue et le calme de la musique divine lorsqu'elle nous est donnée à voir.
Quelques œuvres dont on a pu dire que la perspective qui était proposée était d'ordre merveilleuse, voire miraculeuse. Pardon. Et là, on va franchir d'autres étapes avec d'autres outils de représentation. On peut parler d'une perspective qui va être débordée. En une vingtaine d'années, de 1495 à 1515 environ, on assiste à un profond renouvellement de l'Annonciation en peinture. Ce renouvellement se manifeste dans le rôle désormais mineur accordé à la perspective linéaire. La commodité des anciens schémas sera telle qu'ils continueront à être utilisés comme prêts à l'emploi, où les figures seront des pièces rapportées, plaquées sur un fond architectural sans y être vraiment intégrées. Voilà deux œuvres, Piero del Donzel et le Pérugin, qui donnent un peu le sentiment de, voilà, on plaque sur un fond architectural la scène. On n'a plus du tout cette idée d'une perspective où le sens des textes, d'exégète, vient nous dire des choses, quoi. Et puis l'on ne peut éloigner l'évolution artistique des tensions spirituelles, religieuses et sociales qui vont bouleverser les peintres comme les autres citoyens. L'un des exemples les plus éminents est représenté par Fra Bartolomeo. Fra Bartolomeo, qui peu de temps après la mort de Savonarole, entre dans l'ordre dominicain établi à San Marco, et ses annonciations s'accorderont aux recommandations du prédicateur Savonarole, qui écrivait « Il fallait éviter l'ostentation luxueuse des matières et du décor dans les œuvres religieuses, faire une peinture sobre, chrétienne en quelque sorte, transmettre un message spirituel accessible au plus grand nombre. » Et dans cette œuvre-ci de Fra Bartolomeo, on voit bien qu'il respecte les recommandations de ce frère religieux qui l'avait suivi pendant un temps. Mais cependant, cette problématique spirituelle n'explique pas du tout la volonté de certains artistes, dont notamment Michel-Ange, de ne pas utiliser cet outil qu'est la perspective. Regardez cette figure de Michel-Ange qui est un essai dont l'œuvre ne sera jamais aboutie. Il n'y a là aucune perspective, il n'y a là aucune construction architecturale, et pourtant, il y a une authenticité de l'œuvre, de l'Annonciation, ce geste, Marie qui est confuse, qui reçoit l'ange qui vient. Donc, on a quelque chose, mais sans l'utilisation. Et pourquoi Michel-Ange n'utilise pas la perspective alors qu'il la maîtrise totalement? On n'en a pas la réponse. Et puis, à la différence de la tension dont parlait Daniel Arras, la tension, non pas une affinité, mais une tension entre l'instrument de sa représentation et l'Annonciation, à la différence de la tension qui fondait l'affinité paradoxale entre Annonciation et perspective, on est frappé par l'accord qui existe dans des nouvelles représentations entre le thème de l'Annonciation et l'outil figuratif. Regardez l'œuvre d'Andrea del Sarto suivante. On a ici un éclat de lumière, une déflagration de la lumière. On n'a plus de profondeur. Et pourtant, on a aussi quelque chose qui nous permet une authenticité du thème, donc de l'Annonciation. Ensuite, il faut rappeler la situation politique et religieuse de l'époque, à partir des années de 1530. Le sac de Rome, rappelez-vous, date de 1527, qui a certainement joué un rôle dans le renouvellement du traitement de l'Annonciation. L'Église romaine mettra les ressources de l'art au service de la restauration de son prestige, et c'est le maniérisme qui, loin d'être seulement la recherche d'une virtuosité formelle, a été aussi l'expression artistique de la réforme catholique. En accord avec le durcissement des luttes religieuses, l'art tend à présenter la relation entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, sur le mode de la déflagration irrésistible. La lumière, les nuées lumineuses auront aussi à voir avec une évolution picturale qui s'appuiera sur l'illusion et le relief. Le clair-obscur et le luminisme ont constitué une hypothèse picturale sur laquelle de nombreux peintres sont revenus pour suggérer le mystère et la spiritualité à travers l'opposition de l'ombre et la lumière. Regardez cette œuvre du Caravage. Il n'y a plus de construction géométrique, il y a des corps déséquilibrés, un rapport entre obscurité et lumière, une déflagration, et pourtant on a une authenticité, l'Annonciation. Marie reçoit, l'ange est dans un mouvement fantastique. Voilà donc un autre mode de présenter les Annonciations. En nous dirigeant vers la fin de cette conversation, je vais redonner la parole à Françoise.
Alors, il faut constater que si l'évolution représentant l'Annonciation s'est effectuée principalement entre Sienne et Florence, il ne faut pas oublier Venise. À Venise, l'originalité et la tradition très forte de la peinture, qui depuis longtemps a une fonction politique officielle, encourage une attitude conservatrice, parce que la légende voulait que la ville eût été fondée le jour de l'Annonciation. On peut le voir dans la partie centrale du triptyque de Bonifacio du Pitati, dit Bonifacio Véronèse, où Dieu domine la place Saint-Marc. La perspective a donc une conception très spécifique en s'éloignant des définitions géométriques d'Alberti pour l'assimiler aux gradations de lumière et de couleur qui permettent de percevoir la distance. Voir le traité Arte Pictoria Venitien de Giovanni della Fontana. Mais malgré cette spécificité locale, il y a de nombreux liens entre Venise et Florence contre l'expansionnisme milanais dans les années 1420-1440. Et à Venise sont présents de nombreux peintres florentins, Donatello, Paolo Uccello, Andrea del Castagno. Vers 1450, on assiste à Venise au retour éclatant du dispositif à percée centrale des annonciations qui demeure significative. Notamment, qui semble avoir été le premier à introduire la perspective à Venise, c'est Jacopo Bellini. Et c'est le schéma asymétrique qui servira de base à la majorité des annonciations vénitiennes qui utilisent une perspective latéralisée pour articuler la scène en deux lieux. Ensuite, on a la perspective à l'annonciation de Gentile Bellini, celle de Vittore Carpaccio, puis le Titien, qui accorde en premier lieu à la perspective linéaire un rôle important dans la composition et l'effet de l'image. Mais sa géométrie va servir à dramatiser la scène visible et la lumière occupe une place importante pour conforter cet effet. Ensuite, le Titien adopte un parti radicalement neuf et inaugure un traitement du thème qui deviendra dominant à Venise. Il réduit la visibilité de la grille perspective et donne à la lumière et aux nuées une place dominante. Et enfin, le Tintoret fait de l'irruption une véritable déflagration, avec l'irruption de l'ange.
Ouais. Non.
Non.
C'est bien ça.
C'est celle-là.
On en a bientôt terminé. Mais vous allez voir que Venise et Florence ont quelque chose en commun dont on a rarement parlé d'un point de vue historique et pourtant. Cette évolution générale des œuvres, des annonciations, en reléguant au deuxième plan la perspective linéaire au profit de la lumière, du clair-obscur, de la puissance de Dieu par une déflagration visuelle, rend d'autant plus inattendue l'utilisation de la perspective centrée dans les années 1550. Regardez quelques œuvres. Paris-Bordonne, étonnant, cette architecture qui reprend place à une perspective centrée. On a ensuite Véronèse, le Tintoret. Mais il semblerait que ce renouveau de la perspective centrée ne soit pas dû à la géométrie d'Alberti ou d'autres textes Piero della Francesca, soit dû à la pratique théâtrale. Cette impression que l'on a s'éclaire si on la rapporte aux conceptions développées au même moment par Daniele Barbaro, patricien humaniste, ambassadeur de la République de Venise à la cour du roi d'Angleterre, et le représentant toujours de Venise au Concile de Trente. Commanditaire de Palladio, dont nous a parlé Claude dans une conférence, et de Véronèse. Son importance de Barbaro dans le milieu artistique vénitien tient à ses textes de théorie de l'architecture et la peinture, faisant de la scénographie une partie de la perspective. En réalité, il n'y aura pas de retour à une perspective théologisée. C'est fini, on l'a eu, c'est passé. Mais à une utilisation par chacun des peintres de cette géométrie nouvelle qu'il intégrera dans sa façon de faire. Pour les uns théâtralisés, pour les autres dramatisés, pour les autres théologisés, émerveillés, peu importe, ça appartiendra à chacun. Et c'est aussi dans sa relation avec la mise en scène théâtrale que la peinture a connu une réelle évolution. Et c'est là où l'histoire s'amuse à faire des liens entre des rives, entre des villes. Peinture et théâtre ont constitué deux systèmes de représentation, et Brunelleschi, dont on parle beaucoup pour l'architecture, bien sûr, et pour cause, Brunelleschi, qui est l'inventeur de la perspective fondamentalement, a été le concepteur et le metteur en scène de la représentation théâtrale à Florence, qui en 1439 émerveilla les spectateurs. Donc son travail d'architecte et son travail de mise en scène théâtrale avaient à voir avec la perspective. Barbaro écrit sur le théâtre et le théâtre qui amène la perspective. La scénographie du théâtre est aussi une mise en perspective. La perspective géométrique est une technique de représentation et en tant que telle, elle donne figure à une représentation du monde. Ou plus précisément, elle donne figure à une représentation du monde étant elle-même une simple représentation. Au Quattrocento, la perspective peut donner figure à une vision du monde comme commensurable à l'homme et rendre ainsi possible la figuration de la venue de l'incommensurable dans la mesure. On dit bien que la Renaissance est la primauté de l'homme, l'incommensurable dans la mesure. Au XVIe siècle, elle peut donner figure à une vision du monde comme écrasée, bouleversée par l'irruption divine. Parce que des événements sociaux, politiques se sont produits aussi. D'Ambrogio Lorenzetti à Véronèse, en passant par Abelti et tant d'autres, dont on a vu quelques œuvres, on a pu voir les limites de la pertinence historique du problème artistique posé par la perspective géométrique. Car si la perspective en peinture donne à voir le monde, sa limite, c'est qu'elle ne le pense pas, le monde. Et là, il faut penser à Léonard de Vinci qui nous dit que la pittura est cosa mentale, la peinture est une chose de l'esprit. Donc la perspective nous montre un monde, mais ne nous l'explique pas, le monde. Ce n'est pas un hasard si l'Annonciation a pu constituer un thème privilégié pour étudier l'histoire de la perspective et de ses enjeux, car en mettant en scène la relation intellectuellement impensable, mais visuellement figurée, pensez à la perspective théologisée, entre la perspective et l'infini réalisé, l'Annonciation ne faisait rien d'autre que de donner figure à l'insondable mystère, les oxymores de Bernardin de Sienne, l'insondable mystère qui la hante, l'incarnation de Dieu qui est tout verbe. Nous en avons terminé.
Pas dit. C'est vrai que la diversité que vous avez montrée dans les annonciations m'a étonné. Je me posais une question avant, est-ce qu'on verrait dans chaque annonciation un carrelage bien rangé par terre en perspective? Et il y en a eu finalement pas tellement. Donc c'est assez sidérant. Des questions?
Oui. Dans la beauté de ces annonciations. Oui.
On
n'a rien à dire,
tellement c'est beau.
Qu'est-ce qui a été dit?
J'ai été subjugué par la beauté de ces annonciations. Tout à fait certain.
Oui. Et c'est vrai que on peut passer beaucoup de temps devant de nombreuses annonciations. Oui. Et là, on n'est pas allé au-delà parce qu'il y a une annonciation de Pontormo à Florence qui est merveilleuse par sa sobriété, mais voilà, on ne pouvait pas non plus vous accaparer pendant 3 heures. Quoi. On n'aurait pas osé.
C'est très statique, les couleurs, et puis après, c'est égal. Il y a un mouvement, il y a plus de mouvement, puis les corps se rapprochent aussi entre l'ange et la Vierge. Dans les dernières, là, vous avez montré, il y a un tourbillon, le mouvement m'a beaucoup. Puis une peinture à ses débuts silencieuse, très intime, et puis à la fin, si. On est un peu théâtral dans l'exagération, dans tout ça. Je
ne
sais pas si c'est ce que j'ai ressenti.
Non, mais on peut, oui, ça me paraît très juste ce que vous dites, bien sûr.
Je ne sais pas si c'est partagé, je ne sais pas.
On n'a pas montré une œuvre de Léonard de Vinci, parce que lui aussi, comme Michel-Ange, il a maîtrise, mais il n'est pas adepte, on ne sait pas pourquoi non plus. Pourtant, lorsqu'il l'utilise, elle est là, la perspective centrée est là, linéaire. Mais il n'en fait pas un objet... incontournable, quoi. Mais c'est vrai, ce sont les peintres exégètes qui la rendent, ceux dont on a parlé, la perspective théologisée. C'est vrai que cette porte dans Ambroise de Milan, d'ailleurs, il faudra un jour quelqu'un nous parle d'Ambroise de Milan, parce qu'il y a un très beau livre qui qui a été écrit Laura et la trace par Patrick Boucheron, vie posthume d'Ambroise de Milan. C'est vrai que ces peintres sont des exégètes des textes religieux. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Donc il est vrai que les oxymores de Bernard Nazochienne, moi, m'enchantent parce qu'il y a un esprit humain qui élabore une pensée, quoi. Dans ces oxymores, on voit. Et les œuvres dont vous parlez, dont les exégètes religieux, dont Fra Angelico, ressemblent beaucoup à ce texte des oxymores, quoi. Elles nous invitent à quelque chose de l'ordre d'une conversion du regard. Je crois que ça, Didier Huberman dit quelque chose de très juste là-dessus. On est contraint à une conversion du regard si on veut voir, si on veut rentrer dans certaines de ces œuvres-là. Mais je ne veux pas être prétentieux en disant ça. C'est un ressenti.
Moi, j'ai trouvé intéressant le lien entre théâtre et peinture. Ça, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux.
De Brunelleschi, qui est le grand architecte de Florence, on évoque rarement sa place qu'il occupait dans la mise en scène théâtrale. Très, très rarement.
Et Léonard.
Voilà, Léonard, bien sûr. Mais il est vrai que Barbaro nous permet de faire le lien entre théâtre et architecture et perspective. Oui, oui, oui.
Bon, je vais juste dire un truc. Quel est le peintre de la dernière peinture qu'on a vue?
Le peintre de la dernière peinture, ça doit être Tintoret.
Tintoret, hein, c'est ça.
C'est Tintoret, oui, me semble-t-il.
Cette peinture est super intéressante par rapport à toutes les autres.
Oui.
Pour une seule raison, c'est que c'est la seule peinture où la Vierge est présentée dans son cadre social, c'est-à-dire la pauvreté, l'héroïne, les chaises, des trucs très simples. Dans toutes les autres, une espèce de magnification de la Vierge qui est absolument irréelle, de la Vierge, de la future Mère de Dieu, qui est tout à fait irréelle. Et c'est la seule, peut-être, où justement elle est réelle, en ce sens que là, on touche vraiment à l'homme par rapport justement à la divinité qui arrive en volant. Là. Alors que dans toutes les autres, on ne fait pas tellement la différence. Elle est magnifiée, la Vierge.
C'est vrai, c'est bien.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que cette peinture arrivant à la fin, elle est géniale parce qu'elle a remis les choses en place.
Je voulais absolument la mettre sans en parler longuement, mais oui, ce que vous dites me paraît très juste.
Tant que vous la voyez tous, vous voyez bien la différence avec toutes les autres.
Oui, oui, oui.
C'est vrai.
C'est vrai.
Bien.
Je voulais dire, j'ai bien aimé celle de Andrea del Sarto avec la forte luminosité et la simplicité de la scène, les deux personnages, et l'importance de la luminosité au centre. Au centre du tableau. On peut la revoir ?
Bon, on va essayer. C'est que je ne sais pas manipuler. Moi, j'ai deux mains gauches pour l'outil informatique.
Ben, c'est simple.
C'est celle-là.
Oui, oui, non, mais j'y suis.
C'est
tout
simple.
Mais... D'autres ont d'autres demandes à faire. Je peux appuyer sur les boutons. Ça, je sais faire.
Tu peux avancer de deux.
De deux.
Il faudra supprimer cette image parce qu'il y a des
images. Il y en a une autre aussi après.
Là, on a oublié de dire quelque chose sur cette œuvre. Regardez Dieu est sur la place Saint-Marc. Mais pourquoi? Parce que Venise est née le jour de l'Annonciation. Mais alors, voilà, on est dans le mythe. Mais pour Venise, c'est important. Venise a été fondée le 25 mars, puisque 25 mars, 25 décembre, beaucoup de dames ont su que c'était 9 mois. Moi aussi, j'ai appris ça. Donc voilà, et là il y a une prétention qui me paraît un peu exorbitante quand même, mais bon, voilà.
Est-ce que c'est une date mythique ou une date?
Oui, 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 on est. Bon, moi j'ai pas de. Oui, pardon, j'ai pas vu prêtie image, alors on la supprime. Sinon, on va avoir une amende.
Il y en a une autre plus loin aussi.
Ah, pardon.
Mais bon, ça c'est notre travail.
Tu le vois, le copyright?
Celle-là, non, c'est pas celle-là.
Ah, oui.
Juste une proposition, j'ai le livre de l'Annonciation, il était trop lourd à emmener, de Daniel Arras. Si quelqu'un veut l'emprunter, je prête, hein, bien sûr. Et puis j'ai le livre de Didier Huberman sur tout le travail de Fra Angelico. Si quelqu'un veut l'emprunter, je prête aussi. Je ne loue pas, j'en suis pas là. Non, quoique. Eh bien, merci. Pardon, madame.
On pourrait revoir Fra Angelico.
Alors laquelle de Fra Angelico?
L'Annonciation.
Ah, d'accord. Oui, mais il y en a plusieurs avec Fra.
En haut de l'escalier.
Ah, en l'autre. Voilà, c'est celle-là. Pardon. Alors, c'est celle-là, et ce qui est écrit est là. Vous voyez ce qui est écrit en passant devant, pensez à prier. Mais voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là dont vous parliez.
Grande pureté.
Oui, oui, c'est Fra Angelico, quoi. Oui. Mais je crois que celle que je préfère, c'est les purs de... Ah,
c'est...
Quand même. Elle correspond plus au texte, je trouve, mais bon, c'est une appréciation personnelle.
Mais c'est vénitien, ça.
J'oubliais de vous dire aussi, mais c'est contemporain, le peintre anglais qui a eu une exposition récemment au Jeu de Paume, non pas religieux, mais David Hockney, a dit que sa vocation de peinture est née d'une annonciation de Fra Angelico. En vrai, en allant à Florence et San Marco, dès lors, il s'est dit « je peindrai ». Et il a une annonciation qui est un peu singulière, que je n'ai pas présentée là, puisqu'on n'est pas à la Renaissance.
Donc celle-ci, mais, c'est Domenico Veneziano.
Oui, voilà, le maître de Piero della Francesca. Quand même pas rien, quoi. Enfin, ils nous ont légué beaucoup de bonheur, tous ces gens-là, quand même. Hein.
Oui, magnifique.
Ouais. On peut mourir un peu heureux en voyant tout ça. Pas trop vite, mais... Non, mais je veux pas garder tout le monde, là, on a fini, je crois. Hein. On va vous libérer, parce que ça fait tard.
Vous avez des cours, alors... Ça ne pose pas de problème.
Quel j'ai pas vu l'heure.
On va donc...
Oui, quand même. Hein.
Alors la prochaine fois, c'est ma modeste personne qui sera là pour parler donc, des trois couronnes à l'origine de l'humanisme de la Renaissance.
Je vais juste fournir ces choses.
Merci, madame.
Très bien.
Oui.